radio. L'heure philo sur France Inter jusqu'à 21h. Karen Dehaye est à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka choisit les disques et Florian Dorimini est à la console.
France Inter, l'heure philo. Patricia Martin.
Pour les zones de l'Atlantique et de la mer du Nord, coup de vent à tempête en cours prévu pour Viking, Utsir, Forties, Fisher, Cromarty, Dogger, German, Finistère, Sol, Shannon, Fastnet, Landy, Irish Sea, Rockall, Malines et Hébrides. Grand frais en cours prévu pour Forth, Tyne, Humber et Pazen. Les prévisions par zone pour ces prochaines 24 heures. Pour Viking, Utsir, Forties et Fisher, vent de sud-est 7 à 9, fraîchissant 8 à 10 l'après-midi. De fortes rafales, mer très forte à grosse, devenant très grosse le matin, de la pluie. Pour Cromarty, vent de sud-est, 6 à 7.
Météo à écouter les yeux fermés, l'imagination en bouillon, merci. Marie-Pierre Planchon, inimitable, voire plus grand, plus large, plus audacieux. Aimer le mystère et l'imprévu, oui, mais restons modestes, les marins le savent, le melon et la mer ne font pas bon ménage. Petite philosophie de la mer, un livre réjouissant, signé Laurence De Villers, qui est ce soir notre invitée.
L'océan est une voix. Il parle aux astres lointains, répond à leurs mouvements dans sa langue grave et solennelle. Il parle à la terre, aux rivages, d'un accent pathétique, dialogue avec leurs échos. Plaintif, menaçant à son tour, il gronde ou soupire. Il s'adresse à l'homme surtout. Comme il est le creuset fécond où la création commença et continue dans sa puissance, il en a la vivante éloquence. C'est la vie qui parle à la vie. Les êtres qui, par millions, milliards, naissent de lui, ce sont ses paroles. La mer de lait dont ils sortent, la féconde gelée marine, avant même de s'organiser, blanche, écumante, elle parle. Tout cela, ensemble, mêlé, c'est la grande voix de l'océan. Que dit-il ? Il dit la vie, la métamorphose éternelle, il dit l'existence fluide, il fait honte aux ambitions pétrifiées de la vie terrestre. Que dit-il ? Immortalité. Une force indomptable de vie est au plus bas de la nature. Combien plus au plus haut, dans l'âme ?
Texte de Jules Michelet, lu par Vincent Schmitt. Bonsoir Laurence De Villers.
Bonsoir Patricia Martin.
Vous êtes philosophe, enseignante à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur, je le disais, de Petite philosophie de la mer. La mer vous parle, la mer vous conseille, elle vous apprend, peut-être même vous console-t-elle parfois ?
Alors la mer parle, je pense que c'est un des rares paysages, qui n'en est pas un d'ailleurs, à parler. Alors on parle beaucoup des arbres de nos jours, mais les arbres, ils ne parlent pas, à moins qu'il y ait du vent dans les arbres. La mer, je crois que c'est la seule expérience qu'on puisse avoir d'être dans la nature avec la nature qui nous parle. Et ce que j'ai essayé de montrer, de mettre sur le papier, c'est quelque chose que j'ai vécu depuis toute jeune, et je l'ai compris plus récemment, c'est que la mer est un guide spirituel. On parle beaucoup de spiritualité, de guide spirituel, de maître, de spiritualité. Je crois que la mer est un guide spirituel. Et ce qui m'intéressait, comme philosophe, c'était de montrer que la philosophie peut avoir cette dimension spirituelle qui n'est pas religieuse, n'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est que cette dimension spirituelle que la philosophie doit aussi prendre en compte ? C'est un art de contempler et de comprendre, mais pas l'un sans l'autre. On comprend, on contemple, on comprend. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur maître, enfin moi j'en ai pas connu d'autre, que la mer.
De quelle mer êtes-vous ?
Alors je ne suis pas de la mer justement, peut-être que c'est ça la raison Patricia Martin, c'est je suis de l'intérieur des terres. Je suis de très très loin de la mer, de l'est de la France, de Besançon. Et je me souviens que je me souviens de ma première rencontre avec la mer. Ça a vraiment été une rencontre parce que je le disais, la mer n'est pas un paysage, c'est une apparition. C'est-à-dire même quand on sait qu'on part en vacances, donc j'étais toute jeune, on partait en vacances pour aller à la mer. Et je l'ai vue. Et vous savez, je pense qu'il faudrait retrouver cet émerveillement des enfants quand ils voient la mer. Mmh. C'est à la fois bouche bée et ils veulent absolument en être. C'est-à-dire, il court vers la mer.
Pour ne rien vous cacher, je l'ai vécu une fois, cette expérience, avec le Secours Populaire. Nous avons emmené des enfants qui n'avaient jamais vu la mer, qui avaient 10-12 ans. C'était, j'en ai la chair de poule en parlant.
Ah,
c'était
voilà,
extraordinaire,
c'est
extraordinaire.
C'est ça, il y a quelque chose de... alors, on le dit, hein, la capacité à s'émerveiller des enfants. Mais un enfant face à la mer, comme vous en avez eu l'expérience, et moi, c'est quelque chose dont je me souviens, il y a cette joie, cette jubilation qui fait qu'on veut en être. Et donc, je ne suis pas née au bord de la mer, loin de là, mais...
Mais c'était quelle mer, alors, que vous avez découverte avec...
La Méditerranée.
La Méditerranée.
Et je dois dire, puisque j'y retourne très souvent en Corse, si je n'entends pas la mer de Corse, la Méditerranée, il manque quelque chose à mon année, à ma vie. J'en ai besoin.
Et elle a une sonorité particulière,
ah oui,
la mer de Corse?
Ah oui. Moi, je trouve que, alors c'est aussi ça, cette spiritualité de la mer, c'est que elle nous apprend à être attentif à la beauté dans son détail. La beauté est dans le détail. Et la mer de Corse, il y a pas de galets. Enfin, la plupart du temps, c'est quand même du sable, à part quelques plages. Bon, je vais pas vous faire un guide de la Corse, mais les plages sont plutôt de sable avec des pierres et parfois elles claquent. Et j'aime beaucoup ces moments où la mer claque. Et puis la mer en Corse, elle est extrêmement salée. La Méditerranée est salée de toute façon. Et en Corse, je trouve qu'elle est à la fois extrêmement salée et grasse. Et quand elle est sur votre peau, il y a une sensation inimitable que j'ai pas connue dans l'océan. L'océan en Bretagne, par exemple, je le trouve blanc. Enfin, je trouve qu'il est beaucoup plus blanc, les couleurs beaucoup plus franches, et il est plus piquant. Il est pas gras du tout. Enfin, voilà, c'est la mer, c'est justement cette attention aux détails.
Et elle ne se laisse pas apprivoiser, la mer.
Ah,
non, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est fascinante. Elle aime pas qu'on l'habite, elle n'aime pas les intrus.
Elle est inhabitée, la mer, c'est fait. Dieu merci, encore maintenant, c'est l'EREM, enfin, c'est le mot pour dire cet espace inhabité, et j'espère qu'elle le restera, et qu'elle le sera toujours. La mer, c'est le...
Dernier territoire invaincu, finalement. Hein,
territoire invaincu, indompté, invaincu, c'est pas un territoire humain. On dit souvent que, enfin, je ne sais pas, mais on pense que l'homme viendrait de la mer, mais en tout cas, il n'a pas la main sur la mer. Et il faut que ça reste absolument. Je ne vais pas lancer une polémique sur les éoliennes en mer, mais je pense que la mer doit rester cet espace où l'homme n'y va qu'en invité.
C'est pour ça que les marins sont souvent des gens extrêmement modestes.
Ah, mais la mer apprend la modestie d'abord parce qu'on se sent minuscule. Enfin, tout est vaste, il y a une amplitude, et puis elle est imprévisible. Elle peut tout changer en rien de temps. On n'est rien du tout, on est une coquille de noix, on est minuscule, on est dérisoire. Et je pense qu'à nous humains, ça nous fait du bien d'avoir des leçons d'humilité. On en a peu, en fait, on en accepte peu. Mais face à la mer, il me semble qu'il est important qu'on ait ce temps où on se dit « je suis quand même pas grand-chose ».
Et puis c'est beau de faire un tour terrestre par la mer, non ?
Et un tour terrestre par la mer, oui, absolument. Mais la mer, elle a cette richesse infinie qui fait que on peut l'aimer par les côtes, par les rivages, on peut l'aimer sans nager. Je suis souvent étonnée et je vais souvent questionner les personnes qui restent debout face à la mer. Et je leur demande très souvent, hein, je leur demande, vous faites quoi ? Et ils me répondent, j'ai eu toutes sortes de réponses, mais j'en ai la plus courante, c'est on regarde. Et ça, c'est magnifique. On peut voir la mer par la terre, par le rivage, par la haute mer. On peut prendre le large. On peut s'y perdre. Hein. On peut naviguer la nuit, ce qui est une expérience aussi troublante parce qu'il n'y a plus de terre, il n'y a plus de repères. On peut être sur le rivage et la regarder. Donc la mer, c'est une expérience à la fois de contemplation. Quand on est sur la mer, quand on nage dans la mer, oui, une série d'expériences comme la philosophie peut en décrire peu en réalité. C'est rare quand même d'avoir autant d'expériences avec un seul élément.
Petite philosophie de la mer, Laurence de Villers est ce soir notre invitée.
Olho pro cristalino corcovado e em silêncio grita e bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas mas a gente chega lá. Tem muita treta, treta tem no Amba, mas tem sertanejo, treta, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba.
Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba.
Sem samba mesmo pagou brejo, tem ferrugem, glória, groove, Maiara e Maraíza. E o cabelinho, tem paca, chuta, blusa, tem gente pra chuchu. Sendo David, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel. Olho pro Cristo ali no Corcovado, e em silêncio gritei bababá. Tudo esquisito, tudo muito errado, mas a gente chega lá. Tem muito atrito, treta, tem muamba, mas tem sertanejo, treta, pagodão. Ana Vitória, doce beijo, donça, maravilha, Mendonça, afinação. Vai chegando que a gente vai chegar. Vê se rola, se tudo vai rolar. Só que sem samba não dá. Sem samba não dá. Sem samba não dá. Tem baca, chuta, bruxa, tem gente pra chuchu. Tem do David, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Gabriel, Borel, Tezena, Coronel. Tem Irã e Maju, Simone, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando, Simara, sambando. Tem Léo Santana, Mendonça, no Pelourinho, pode dar, 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 pode dar, pode dar. Olho pro Cristo ali no Corcovado.
Caetano Veloso, il est d'un pays, le Brésil, hein, bordé par l'océan Atlantique. L'océan, ce n'est pas la mer, on l'a compris, Laurence de Villers, c'est océan contre mer, c'est Pacifique contre Méditerranée.
Alors, l'océan n'est pas la mer pour plein de raisons techniques que je pourrais énumérer, mais je crois que ce qui
est plus... la mer peut être l'océan parfois.
Et la mer peut être l'océan. Je pense que ce qui est important, alors la mer n'a pas de marée, donc évidemment ça saute aux yeux, c'est manifeste. Mais ce que j'aimerais pas, c'est parce que c'est une tendance qu'on pourrait avoir, c'est de se dire que la mer c'est du féminin, il y a la douceur de la mer qui ne semble pas déchaînée, alors que l'océan aurait cette impétuosité, voire cette virilité qui serait toute masculine.
En considérant qu'il n'y ait qu'une seule identité.
Une seule identité, ce qui d'abord n'est pas vrai, et cette symbolique d'une mer féminine et douce et d'un océan fougueux et masculin, non seulement elle est complètement fausse et démentie par la mer, enfin les tempêtes en Méditerranée elles sont terrifiantes, moi je crois que j'ai jamais eu aussi peur qu'en Méditerranée en réalité, et parce que aussi je pense qu'associer le féminin et la douceur c'est non seulement ridicule et faux, et le masculin et la fougue c'est tout aussi ridicule et faux, donc oui bien sûr l'océan a démarré. Mais, alors, je vais peut-être vous choquer, hein. Alors, c'était pas technique, et Mathieu Vidard, sur France Inter aussi, dirait, mais non, ça va pas du tout, les scientifiques disent le contraire. Mais moi, je trouve que la mer a démarré. Ce qui m'intéresse, c'est que, elle change énormément. Alors, je vais toujours au même endroit en Corse. Et à chaque fois, je redécouvre que la mer a grignoté tel endroit, ou qu'elle s'est reculée, ou que dans la journée, je trouve qu'elle remonte. Alors, on pourrait m'expliquer scientifiquement, mais ce qui est important, ce qui est important dans l'expérience qu'on fait de la mer comme de l'océan, c'est que c'est le mouvement permanent.
Et où va l'océan lorsqu'il se retire?
Ah, ça c'est la grande... Alors ça aussi, il y a une explication très technique, mais cette idée justement d'une mer qui s'en va et qui se met... d'un océan qui s'en va et qui se met à nu avec impudeur, enfin c'est pas beau. Moi je trouve que c'est pas beau. Il y a une laideur spectaculaire quand on voit les dessous de l'océan. Quand il se retire, il y a quelque chose de... Le paysage qui ressemble à aucun autre, mais dans l'expérience, il y a quand même cette chose en commun qui est le mouvement permanent. Quel paysage est animé de ce mouvement? Alors, jamais le même et toujours le même. Et puis, philosophiquement, c'est intéressant. Alors, pourquoi petite philosophie de la mer? Pourquoi la philosophie de la mer? Mais parce que...
Ah bah on le comprend quand on lit le livre, on le comprend parfaitement. Pourquoi?
Ah bah tant mieux, je suis contente, professeur Martin. Mais parce que d'abord la mer est une expérience philosophique. Si on prend le temps de la regarder, elle dit quelque chose, elle nous parle. Michelet a raison, elle nous parle, elle nous demande une liberté. On se sent étriqué, pétrifié, encombré quand on est face à la mer. Elle nous demande. Je pense aussi qu'il y a une expérience. J'ai du mal à la qualifier. Je cherche toujours le mot. Une expérience d'élargissement du cœur, il y a comme une dilatation, je vais employer un grand mot, mais il y a une expérience de transcendance face à la mer. Pas une transcendance qui m'amènerait vers un au-delà, mais tout d'un coup on se sent élargi, il y a une expérience de plus grand, de plus beau, de plus fort. Pour moi c'est l'expérience de la transcendance. Et puis il y a aussi ce mouvement permanent, les métamorphoses, et... Je suis absolument pas la première à le faire, c'est même un cliché. Les philosophes, quand ils ont essayé de qualifier la vie humaine, ont eu recours à des métaphores maritimes.
Mais vous citez d'ailleurs des auteurs à la fin du livre.
Oui. Hein,
et
j'ai pas voulu faire de référence le livre.
Voilà, mais ça s'intitule Amar. Et donc vous citez plusieurs personnes auxquelles vous êtes amarré. Alors il y a des poètes.
Oui,
évidemment, il y a Baudelaire, il y a Rimbaud, il y a Victor Hugo d'ailleurs.
Il y a Pessoa.
Il y a Pessoa, mais il y a aussi Joachim du Bellay. Bon voilà, il y a Samuel Beckett et puis il y a des philosophes.
Alors, et oui, il y a
Nietzsche, Platon, Sénèque, Montaigne, Pascal et Descartes.
Parce qu'il y a des choses que, alors non seulement parce que les philosophes ont parler de la mer, je pense à cette métaphore assez terrible de Lucrèce qui dit « Suave Mari Magno », quand heureux ceux qui restent sur le rivage et qui voient les naufrages et les tempêtes de loin. C'est-à-dire que le sage, si tant est que le philosophe soit un sage, mais le sage qu'on dit philosophe, il est comme celui qui reste sur le rivage et qui voit les naufrages, les fortunes de mer de ceux qui ne savent pas regarder de loin les choses. Voilà, c'est les philosophes ont pensé
Ulysse qui, quand il met un pied à terre, est plus heureux finalement. Il faudrait imaginer Ulysse heureux, c'est ça?
Et moi je dis, il faut l'imaginer malheureux. Malheureux, parce que...
Pas heureux, malheureux.
Il n'y a pas pire que de revenir de la mer, ne serait-ce que d'un moment de nage ou d'une navigation, revenir à la terre. Enfin, l'expérience... Alors, philosophie parce que les philosophes en parlent et parce que je pense, hein, j'en suis convaincue et je vais essayer de convaincre avec ce livre parce que je fais part de quelque chose d'intime, hein, d'une philosophie personnelle que j'ai mise à l'épreuve des faits. Je pense que il y a une expérience philosophique forte avec la mer, soit en la contemplant, soit en nageant, soit en naviguant. Il y a quelque chose qu'on comprend de la vie, de nous-mêmes. La nage, vous me disiez, pourquoi Ulysse malheureux? Mais parce que sur Terre, même si on marche, alors vous avez compris, moi c'est pas la marche, hein, mon truc, je ne fais pas partie de cette cohorte de philosophes qui marchent, moi je suis une philosophe qui préfère nager. Quand on marche, on est dans l'espace, on est toujours assigné à résidence. Marcher, c'est toujours aller d'un point à l'autre. Nager, d'abord, c'est flotter. Je ne coule pas. Ça tient du miracle. Je ne coule pas. Et pour moi, ça s'apparente plus à voler. Il y a quelque chose d'aérien dans la nage.
Vous avez déjà volé pour dire ça?
Je vole beaucoup moins que je ne nage. Mais voilà l'expérience philosophique qu'on peut faire. C'est que nager, non, ça n'équivaut pas à ne pas avoir de corps. J'en ai toujours un. Mais mon corps devient léger. C'est plus une matière. Il est léger, il pèse pas. Il est ni beau, ni laid. Il est ni gros, ni maigre. C'est une expérience philosophique qui a peu d'équivalent. Nager, mon corps devient différent.
Elle est une de vos amarres, Isabelle Autissier.
Ah oui.
C'était sur France Culture dans l'émission À voix nue.
Moi, j'ai construit ma vie autour de la mer. Et je sais qu'avec la mer, on peut tout dire et tout faire. On peut faire des voyages magnifiques et aller à la découverte des autres. Et puis, on peut aller faire la guerre. On peut avoir des échanges économiques. Et puis, on peut aussi être dans une mondialisation qui n'a pas de morale. On peut faire de la poésie. Et voilà, on peut tout faire avec la mer. Je pense que c'est important de jamais l'oublier. Et finalement, la mer, l'océan, c'est aussi ce que nous, les hommes, on en fait. C'est porteur de nos rêves, c'est porteur de nos angoisses, c'est porteur de nos défaites et de nos victoires. Et simplement, pour moi, personnellement, c'est tout ça à un degré très intime et très fort. Donc je crois que la mer, elle a ça de particulier, c'est qu'elle nous parle plus fort que d'autres milieux. Moi, depuis le début, elle m'a parlé plus fort. J'ai toujours essayé de l'écouter parce que elle m'a toujours inspirée, que ce soit pour mes études scientifiques, que ce soit pour l'écriture, que ce soit pour les aventures, pour les solidarités, pour les combats. Voilà, je crois que je les ai toujours vécues de manière plus forte et plus impliquée parce que c'était l'océan. Mais je ne sais pas pourquoi.
Ah bah voilà, vous savez, elle ne sait pas pourquoi. Vous ne savez peut-être pas pourquoi non plus. Mais ça, à mon avis, Laurence de Villers, ça vous plaît ce que vient de dire Isabelle Autissier.
C'est exactement ça. C'est je suis très admirative, je suis fan, je dois l'avouer, d'Isabelle Autissier. J'ai vraiment une énorme admiration pour Isabelle Autissier. Mais ce qu'elle dit là, et vraiment je vous remercie parce que pourtant j'ai écouté beaucoup de choses d'elle, mais je l'avais pas entendue.
C'est Karine Deshaies qui trouve comme ça des petites merveilles.
Bravo parce
elle
que c'est trouve. Exactement mon expérience. C'est-à-dire que la mer n'a cessé de me parler. Elle ne cesse de me faire penser, de me dire des choses. Et elle m'empoigne par les tripes. C'est comme le dit Isabelle Autissier, c'est un rapport très intime. Si on prend le temps, je crois que chacun de nous peut y mettre de soi, se découvrir, aller à la rencontre de soi-même.
La possibilité, c'est aussi la mer, c'est aussi la possibilité des recommencements, c'est aussi l'art des métamorphoses.
Complètement. La mer, c'est ce mouvement permanent et donc elle nous dit la possibilité des métamorphoses.
Alors, vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez peut-être pas tout à fait consciente des choses il y a quelques temps, il y a quelques années de ça, Laurence de Villers. Je voulais vous demander justement, est-ce que ce livre est le livre d'une certaine sagesse aussi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous auriez pu écrire ce livre il y a 20 ans?
Alors, je vais être obligée d'être très sincère avec vous. J'ai écrit ce livre grâce à mon éditrice qui m'a dit quel est le sujet que t'as le plus à cœur et je lui ai dit la mer. Et je l'ai écrit dans une des périodes les plus effroyables de ma vie. Je sortais d'un enfer et je ne pouvais plus écrire. Et ce livre m'a sauvée parce qu'il m'a permis d'écrire. Vous savez, quand on vit des humiliations, en l'occurrence moi c'était professionnel, on ne s'appartient plus, c'est-à-dire on est exilé de soi-même. On n'est plus que dans ce qu'on nous a fait. Et en fait, j'ai découvert qu'on ne se reconstruit pas, hein, on ne rebondit pas. Ce sont des cicatrices. Peut-être qu'on empêche qu'elles saignent toujours, mais elles sont là. Moi, je ne crois pas du tout au fait de positiver ce qui nous arrive. Mais en tout cas, j'ai découvert en écrivant ce livre que ce qui compte le plus, c'est de parvenir à s'appartenir à nouveau. Vous voyez, s'appartenir à nouveau, parce que on m'avait fait subir des violences et oui, c'est une des périodes les plus effroyables de ma vie. Et je n'étais plus moi-même au sens où je ne vivais plus là où je devais être. Je n'étais plus moi.
Et les vents étaient contraires, là.
J'étais pas loin du naufrage total. Et je me suis rendu compte que non, on ne rebondit pas. Non, on ne cicatrise pas. Non, on n'apprend pas de nos échecs. Non, on n'apprend pas de nos malheurs. On les vit, on les traverse comme on fait une traversée difficile. Et au bout du compte, la victoire, parce que Isabelle Autissier parle de victoire et je crois beaucoup aux victoires. Je crois plus aux victoires qu'aux réussites. La victoire, c'est s'appartenir à nouveau. Donc non, j'aurais pas pu écrire ce livre, j'aurais pas mis autant de vérité de moi-même si mon éditrice ne m'avait pas demandé de l'écrire à un moment où j'étais en train de me noyer, où on a fait en sorte de me noyer.
Mais on n'a pas réussi. Ça ne m'étonne pas. C'est très bien. Le vent, justement, je parlais des vents contraires. Le vent, ça vous en parlait aussi dans ce livre, c'est un élément vital, mais c'est un élément très inquiétant quand on parle des 40e rugissants, des 50e hurlants, des 60e déferlants. Ça, c'est dans l'Austral, on se dit oui, j'aimerais pas y être, quoi.
Alors, je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais je le devine quand même, Patricia Martin. J'ai l'impression que, comme moi, vous trouvez ces expressions du vocabulaire de la navigation magnifiques. Je veux dire, même si on comprend pas, hein, rugissant, hurlant, les 40e, les 60e, moi, c'est quelque chose, enfin, très jeune, hein, sans comprendre ce que ça voulait dire. J'avais l'impression que ça dessinait des mondes, c'était l'ailleurs en fait, voilà. Ça me décrivait l'ailleurs, mais le vrai ailleurs, hein, pas cet ailleurs calibré, quadrillé, ou pas cet ailleurs où on y vient avec soi, etc. L'ailleurs absolu, le vraiment autre. Et donc il y a déjà la joie de ces mots. Je pense qu'Isabelle Autissier le dirait aussi, puisqu'elle est écrivaine. Il y a déjà un bonheur des mots quand on parle de la mer. Le vent, la mer, les deux font peur. Les deux font peur. Et les deux, c'est un mariage, c'est une passion, la mer et les vents. Mais les deux font peur, et en fait, pour avoir eu des accidents en mer, mais de casser plusieurs choses, etc., la peur fait partie du plaisir. Ça aussi, c'est une expérience philosophique. Mmh. Est-ce que le plaisir, il doit être lisse? Est-ce qu'il doit être comme du papier vinyle? Non. Dans le plaisir intervient déjà l'inquiétude que ce plaisir finisse. L'inquiétude qui ne revienne pas, vous savez, même ces plaisirs quand je quitte la Corse, je pleure, non seulement parce que je quitte un paradis, mais parce que j'ai toujours peur que mon plaisir ne puisse pas revenir. Je sais pas si ça vous fait ça, mais la vraie expérience du plaisir, c'est pas cette plénitude tranquille, sans vagues. Non, il y a toujours une forme d'inquiétude. Et puis il y a la vraie peur, le danger quand on va en mer, même pour nager, on entre dans un élément qui n'est pas fait pour nous, on l'a dit. La mer, c'est l'espace non habité, non habitable. Eh bien, cette peur, ce frisson, ça fait partie du plaisir. Ôter la peur, bah, il manque quelque chose au plaisir. La mer, les vents, cette métamorphose que peut vous faire, que peut prendre la mer, les vents aussi peuvent d'un coup se lever, rien n'était prévu. Quelle belle métaphore, belle ou effrayante, mais voilà, l'effroi et la beauté, ça va ensemble. Quelle belle métaphore de la vie. Qui vit sa vie en se disant qu'il n'y a pas une forme de peur ou d'inquiétude. Enfin, pour moi, vivre, c'est être inquiet. Si on me dit le contraire, alors on me dit c'est pas possible, faut qu'on m'explique.
Alain Colas, c'était en 1974. Vous allez écouter, à mon avis, avec beaucoup d'intérêt, ce qu'il va nous dire.
La mer, c'est être dur, très dur. C'est présent à l'esprit en permanence. Quand on part à la manœuvre et qu'on n'a pas le temps de mettre ce harnais de sécurité parce qu'il y a la sécurité du bateau, parce que la claque de vent est arrivée avec la sécurité du bateau, que veuille que tout de suite on affale la voilure, on sait que le faux pas peut être fatal. On le sait tout ça, mais on vit avec. Et on tâche de se cramponner et de ne pas oublier le dicton des vieux de la vieille, une main pour soi, une main pour le bateau. Quand la déferlante commence à se recourber, quand la lame, la grosse lame d'ouest, se dresse derrière vous et que tout le sommet des tonnes et des tonnes d'eau commence à se recourber, blanchir dans le bouillonnement de cette cataracte qui vous arrive dessus, le mot qui s'échappe, c'est « mon Dieu ».
Voilà, c'est « mon Dieu ». C'était donc Alain Colas 4 ans avant sa disparition, puisqu'il il a disparu en mer en 1978, c'était au moment de la première route du Rhum au large des Açores au Portugal. C'est très beau aussi ce qu'il dit. La mer redoutée des marins, tout le temps.
La mer est à redouter, des marins et même des nageurs. Enfin, on n'entre pas... On entre dans la mer avec cette peur dont j'ai parlé, mais on y entre aussi comme dans une forme de sanctuaire. La mer n'appartient qu'à elle-même. C'est ça un sanctuaire. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment du sacré qu'on peut avoir? Moi, je l'ai chaque fois que je vois la mer ou que j'entre en mer ou que je vais sur mer. Le sanctuaire, c'est quoi? C'est ce qui n'est fait que pour soi et qui abrite plus grand que soi. La mer, c'est ça. C'est plus grand que soi, c'est terrifiant. Ça peut être effectivement une cataracte qui se dresse toute blanche, écumante.
Ben, on voit ce qui est le drame qui est survenu hier en fin d'après-midi, avec trois morts à Plogov dans le Finistère. Qui ont été arrachés.
Mais la mer, c'est une sauvagerie. Enfin, c'est un espace sauvage, peut-être un des rares, qui reste vraiment, peut-être un des seuls même, qui reste sauvage. C'est une puissance qui... Qu'est-ce qu'il y a un équivalent l'uranium? Mais c'est une puissance. Et je le disais, alors bien sûr, il y a cette peur. Quand on écoute Alain Colas et qu'on sait ce qu'il va subir, évidemment, c'est cette peur et cette terreur même de la mer. Mais c'est une leçon d'humilité, je le disais, et qui nous fait pas de mal. Nous avons tellement des allures de conquérants sur tout, d'empereurs. Nous sommes tous des empereurs, à un moindre degré. Nous arrivons toujours en terrain conquis. Eh bien, la mer, elle me dit, tu ne mourras pas. Ce n'est pas un terrain conquis. Et je pense à Alain Colas qui dit « Mon Dieu ». Oui, on dit « Mon Dieu » face à la mer. D'abord parce que elle a ce côté sublime de l'effrayant. Enfin, c'est vraiment plus grand que moi, c'est l'infini, on le touche du doigt. Elle a même, enfin, cette beauté de la mer, c'est pas une joliesse, hein. La mer, c'est pas joli. C'est vraiment beau. Ses couleurs, ce qu'elle peut faire, ses mouvements. Et puis, on dit aussi mon Dieu, parce que je le disais, je pense qu'il y a un sentiment d'être face à un sanctuaire.
Elle est de quelle couleur?
Ah, ça c'est pareil, si on est attentif, elle est... Alors ça aussi, ça peut être complètement technique, elle a pas de couleur, hein. La mer, elle est pas bleue ni verte, elle est blanche en fait. Ça s'explique techniquement, mais je vous promets, je le fais pas.
C'est nos yeux qui la voient voient quelquefois verte.
Elle impose ses propres lois au spectre des couleurs, donc elle réfléchit ce qu'elle veut. À un moment donné, dans les profondeurs, il y a plus que le bleu. Mais la mer, ce qui est intéressant quand on la regarde, elle a toutes les couleurs. Enfin, Homère disait, parce que le bleu n'existait pas dans l'Antiquité, hein, il est venu avec les peuples qu'on disait barbares, les Vikings, le bleu n'existait pas, il est venu tardivement en Europe. Mais Homère disait que la mer est violet. Mais oui, moi j'ai déjà vu des mers, vous doutez où, en Méditerranée, violet. Elle peut être d'un vert d'orfèvrerie, parfois elle en fait trop. Ça m'arrive de regarder la mer et dire cette couleur, c'est pas possible, c'est trop. Voilà, la mer, il y a quelque chose de trop qui nous fait sentir petits. Et là aussi, il y a une expérience philosophique, c'est que il faut absolument embellir la vie. La vie suffit pas. Il y a à la fois pas plus beau que la vie, mais la vie ne suffit jamais. La mer nous apprend que justement, il faut embellir la moindre de nos journées. C'est pas vrai que le réel nous suffit. Nous, humains, nous sommes ces animaux, ces vivants pour qui le réel ne suffira jamais. Et donc la mer nous apprend à faire de l'orfèvrerie, à embellir, à farder, à maquiller nos journées, mais par tous les moyens. Si c'est par l'imagination, le mensonge, la mythomanie, si ça ne nuit pas, si ça vient pas à une faute morale, mais pourquoi pas ? C'est ça la mer. Moi j'ai l'impression qu'elle est fardée. Et je me dis, je pense à cette phrase de Nicolas Bouvier, qui parle pas tant que ça de la mer d'ailleurs. C'est un homme de l'intérieur.
De l'intérieur, de la terre.
C'est un homme de l'intérieur. Mais il dit, c'est quelque chose qui m'a frappé dans l'usage du monde. Qu'est-ce que je vais faire pour faire basculer la journée en ma faveur? Et moi, ce ne sont pas les voyages sur terre qui me l'ont appris, mais en mer. Quand vous regardez la mer, elle vous dit, comment tu vas faire basculer ta journée en ta faveur? Quelque chose qui va faire qu'il y a un grain de sel, puisque on parle de la mer, ce petit sel qui va faire basculer ma journée en ma faveur. Oui, l'art des métamorphoses et l'art des embellissements, n'ayons pas peur, le réel ne suffit pas.
Vous êtes bien sur France Inter, dans l'heure philo, petite philosophie de la mer, en compagnie de Laurence de Villers.
Manu rêve.
Manureval, un chant fort en hommage évidemment au bateau d'Alain Colin.
Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Combien de patrons morts avec leurs équipages. L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages et d'un souffle, il a tout dispersé sur les flots. Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée. L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue. Vous roulez à travers les sombres étendues, heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus. Oh, que de vieux parents qui n'avaient plus qu'un rêve sont morts en attendant tous les jours sur la grève, ceux qui ne sont pas revenus.
Océanonox de Victor Hugo, lu par André Rebaz. Vous connaissez le texte par cœur.
Hein, à peu près, à peu près.
plutôt plus que moins.
Oui, c'est un texte, ne serait-ce que l'accroche, combien de marins, combien de capitaines. Mmh. C'est, et puis, Victor Hugo, un homme de la mer, bien sûr, dit cet aspect terrifiant de la mer. Encore une fois, hein, je crois que la mer n'est pas jolie. Elle est belle, voire plus que ça. Elle est belle d'une beauté terrifiante. Et comme la mer est toujours la métaphore de quelque chose, encore une fois, philosophie de la mer, parce que la mer est la meilleure métaphore de ce qu'est la condition humaine.
Et quand la mer est gelée, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ?
Ah, l'hivernage, quand la mer est gelée, quand vous êtes pris dans les glaces. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous rusez, c'est-à-dire que vous vous servez des glaces, donc de la dérive, pour avancer. Il y a des explorateurs qui ont gagné, qui ont conquis des mondes en se servant de l'hivernage. Soit vous êtes complètement pris dans les glaces. Je pense à ce naufrage de l'Erebus et du Terror, qui est un des plus immenses désastres. On a trouvé les épaves il y a peu de la marine britannique. Donc, ont été écrasés, en fait, par les glaces. Dans la vie, on connaît des hivernages. Vous me demandiez, Patricia, comment j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit dans un hivernage, dans la glace. J'avais pas beaucoup de lumière, j'en avais plus intérieure, en fait. J'étais devenue ce qu'on voulait que je sois. Et donc, j'ai hiverné. Et je pense que la difficulté, c'est difficile. Hein. Je parle absolument pas de résilience. Hein. Vous voyez, c'est impératif qu'on aurait à rebondir, à faire quelque chose de ces riens qui traversent nos vies, qui les pétrifient. Eh bien, la difficulté, c'est de savoir mûrir dans la glace comme au soleil. Il y a quelque chose, une phrase d'Henri Michaud, du poète, qui le dit. À défaut de soleil, sache aussi mûrir dans la glace. Et je trouve que c'est tellement plus juste de nos, plus près de nos expériences de tristesse, de se dire que je vais aussi pouvoir mûrir dans la glace. C'est autre chose que la résilience, hein. Je n'efface pas ce que j'ai vécu. Mais du lieu même de mon chagrin, de cet hivernage, souvent imposé, pris dans les glaces, je vais néanmoins mûrir, je vais grandir. Dans la glace comme au soleil.
Tout à l'heure, nous écoutions Isabelle Autissier. En 2010, il se trouve qu'elle a fait le tour de l'île Pierre Ier dans le Pacifique Sud, une terre de glace qui a été découverte en 1821. Et vous écrivez, Laurence de Villers, que l'île Pierre Ier, c'est le manifeste de soi.
Ah oui, parce que alors l'île Pierre Ier, c'est l'île en majesté, c'est-à-dire on peut à peine y aborder. Charcot a essayé de l'y aborder, il n'a pas pu. C'est hostile. Enfin, c'est l'île en majesté. Pourquoi ? Parce que on peut pas la prendre. On peut pas y aborder. Et là, d'une certaine façon, ni rivage, ni passe, ni plage, ni rien du tout. Et je pense que chaque homme est une île. Et que nous ne cultivons pas assez notre insularité. Alors, notre insularité, c'est quoi ? C'est notre singularité. Vous me direz, mais non, nous sommes dans une société individualiste où chacun exprime ses goûts jusqu'à s'isoler des autres, où il y a le « et moi » qui scande à peu près tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on dit. Et bien, paradoxalement, je ne crois pas. Je crois que, et les moyens techniques exagère ce phénomène. Je crois qu'il y a un effacement de l'individu. Nous sommes, nous comptons, mais dans nos comportements ou dans ce que nous aimons, dans ce que nous suivons, dans ce que nous faisons, notre intimité échappe de plus en plus. Notre singularité est de moins en moins prise en compte. L'algorithme, ce n'est pas moi. Mais quand même, l'algorithme dit quelque chose de moi, mais il ne dit pas mon insularité. Il
y a un mot. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis moi?
Qu'est-ce qui fait que je suis moi ? Voilà la bonne question. Mmh. Voilà, et qu'on doit se poser. Enfin, moi, je me la pose. Mmh. Qu'est-ce qui fait que je suis moi ? Alors, j'adore les listes. Et je me fais des listes. Qu'est-ce qui fait que je suis moi ? Ah, mes goûts, mes dégoûts, les sons que j'aime, les mers que je veux traverser ou que je veux voir. Mais nous sommes dans, je pense, à une époque qui, paradoxalement, où on parle de cet individualisme qui serait forcené, bah non, ou ce qui fait que je suis moi s'efface de plus en plus. Il y a un terme, alors je vais le dire en grec, parce que c'est plus joli, en grec, idios, l'idiot, qu'a donné l'idiot, c'est le fait d'être unique en son genre. C'est le fait d'être sans sosie, sans pareil, à nul autre pareil. Eh bien, je pense que la mère nous dit, puisqu'elle est jamais la même, et que dans ces détails, bah, on pourrait, je vous parlais de la mère en Corse, bah, ma mère, moi en Corse, c'est celle du Nord, et ça a rien à voir avec celle du Sud.
Rien.
Rien à voir. rien à voir. Donc, c'est ça aussi, être une île en pleine mer, c'est l'attention aux détails, et c'est être, Pierre Ier, une insularité, une idiotie, au sens où ni je ne cède, ni je n'imite, je suis moi. Mais finalement, nos goûts vraiment à nous. Hein,
mais on passe tant de temps à ne pas être soi.
On passe tant de temps à ne pas être soi. On est encombré de plein d'autres que de nous.
Alors après Isabelle Autissier, après Alain Colas, Éric Tabarly. C'était en 1995. Écoutez bien la date parce que c'est important par rapport à ce qu'il va dire dans l'histoire en direct.
Il faut faire très attention à maintenant à tout ce qui est protection de la nature. Il n'y a pas que la mer, évidemment, toute la nature. C'est sûr que les océans ne peuvent pas continuer à être les poubelles du monde comme ils l'ont été jusqu'à maintenant. Et il est grand temps de changer de mentalité. Et il y a un mouvement déjà qui s'est dessiné, bien sûr, mais il faut l'accentuer. Tout le monde ne suit pas le mouvement encore et il faudrait que tout le monde le suive. Nous, on ne peut pas vraiment voir la pollution des mers parce que généralement, ça ne se voit pas à l'œil. C'est les scientifiques qui font des prélèvements, qui font des analyses d'eau et qui peuvent vous dire là, c'est très pollué, là, ça va bien encore. Bon. Nous, on voit des choses comme des plastiques qui flottent, des trucs comme ça. Parce que tous ces plastiques, après on les retrouve sur les plages, le long des côtes, et tout ça, c'est vraiment dégoûtant. Mais enfin, il n'y a pas que ce qu'on voit. Il y a toute la pollution qu'on ne voit pas, est à mon avis plus dangereuse que celle qu'on voit.
C'était, je le disais, en 1995, depuis ça n'a fait qu'empirer. Il y a plusieurs soupes plastiques, la plus étendue étant entre le Japon et les États-Unis sur une surface qui représente trois fois la France, et c'est 80 000 tonnes de microplastiques. Voilà, de quoi tuer des milliers et des milliers d'animaux.
Et Tabarly disait ça, l'océan poubelle, en 95. Alors, c'est un sacrilège. Enfin, je vais vraiment loin, puisque je parlais de la mer comme sanctuaire. Il y a un sacrilège à avoir du plastique, puisque c'est la seule chose qu'on voit. Et Éric Tabarly a raison, et on le sait. C'est beaucoup plus profond que ce que notre œil peut voir. Les dégâts sont beaucoup plus importants. Et pour les animaux aussi, enfin, pour la faune. Mais voir du plastique, mais même 4 mm de plastique sur un bord de plage, c'est un sacrilège. C'est aller cracher sur une œuvre d'art. Et voilà à quoi je pense. Je pense qu'il faut un pacte social qui inclut la nature. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la mer. Qui inclut la mer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que on a un pacte social entre citoyens. On fait en sorte que ma liberté ne vienne pas asservir la vôtre, qu'on puisse vivre ensemble, puisqu'on c'est l'expression consacrée. Ça s'appelle république, en fait. Voilà. Eh bien, je pense qu'il faut l'étendre aux vivants, aux animaux. Moi, je suis tout à fait pour un pacte social avec les animaux et avec la mer. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a une éducation à faire. Un enfant, on lui apprend à ne pas jeter au bord de la mer, mais partout, à ne pas jeter. Et il y a une civilité à avoir. Alors, une civilité entre nous, entre citoyens, ça revient à dire, bah, après vous, c'est ça, hein, la citoyenneté, la démocratie, c'est pas je fais ce que je veux.
Ça, c'est philosophique, c'est Emmanuel Lévinas.
C'est le contraire, c'est après vous, c'est Lévinas. Et je pense qu'on peut l'appliquer à la vie politique. Mais cette vie politique, ce après vous, on doit le dire aux vivants. On doit le dire aux animaux, qu'on continue à maltraiter. Et on doit le dire à la mer qu'on continue à maltraiter. Donc je pense qu'il faut imaginer, philosophiquement, mais très concrètement, un pacte social global avec le vivant. Et une civilité étendue aux vivants. Donc animaux, bien sûr, mais à la mer aussi.
Animaux, y compris le requin, hein, dont vous parlez dans votre livre, le roi de l'océan qu'on a massacré. Aussi, voilà, qui est lui aussi en voie de disparition.
En voie de disparition.
Et il faut rappeler que les requins sont apparus bien avant les dinosaures et qu'on a tort de les diaboliser. Je voudrais terminer, Laurence de Villers, cette émission sur un miracle, car, je vous cite, oui, les premières brasses, vous parliez un petit peu tout à l'heure de ça déjà, les premières brasses sont comme un miracle.
Nager vraiment libère du carcan social. Et c'est pour ça que Gilles Deleuze en parle si bien, parce que c'était un des ressorts de sa philosophie. Et aussi échapper au surmoi, à la culpabilité, au poids d'un héritage. Tout ça se dissout dans le geste de nager et d'accepter d'être immergé dans un infiniment plus grand que soi. Il y a ça aussi dans le bonheur de nager. Tout d'un coup, les limites du quotidien, de nos espaces, tombent. On entre dans une sorte d'infini bleu ou pas bleu, mais au lieu que ça nous oppresse, c'est au contraire une ouverture proportionnée. On est aussi grand ou aussi petit, c'est pas la question, que cette immensité.
C'est drôle parce que il y a un livre de Chantal Thomas qui sort en même temps que le vôtre.
Oui, j'aime beaucoup Chantal Thomas et ce qu'elle dit là, je pense qu'on aurait fait des compagnons de nage, elle et moi, parce que moi je choisis exprès d'être beaucoup sous l'eau. Parce que justement, c'est une expérience de cette transcendance dont je parlais. C'est que je suis au milieu de cette transcendance, de ce plus grand que moi. Mmh. Et je crois qu'il n'y a aucune expérience qui nous donne l'équivalent.
Et n'oublions pas que le bord de mer devrait être l'occasion d'une expérience totale. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Pensons-y aux prochaines vacances, qu'est-ce que vous en dites?
Prochaines vacances, apprenons non pas la méditation, qui est beaucoup trop à la mode pour être honnête, mais la contemplation. Prenons le temps de regarder dans le silence ce que la mer nous dit.
C'est un bon exercice de désencombrement narcissique, comme vous l'écrivez. Et n'oublions jamais que le vent du large nous appelle également et qu'il s'en vient nous libérer en quelque sorte de nos vies empêchées.
Oui, je crois qu'on est destiné à plus grand qu'on s'imagine. Je crois qu'on s'interdit plus qu'on espère. On devrait espérer beaucoup plus pour soi.
Merci beaucoup, Laurence de Villers. Petite philosophie de la mer est parue aux éditions de La Martinière. Et la semaine prochaine, c'est Étienne Balibar qui sera à votre place.